Je suis désolé d'être un petit peu enrhumé. Je n'ai pas pu résister à certains de ces petites bêtes, que ce soit des microbes ou plus petits encore, des virus, qui n'ont pas voulu m'épargner. Mais j'ai pourtant... Je n'ai pas la télécommande, par contre. J'ai pourtant un message important à vous adresser ce matin. C'est-à-dire vous révéler en quelque sorte le secret d'une vie chrétienne heureuse et d'une Église qui fait envie. Rien que cela. Et ceci à partir de l'exemple du personnage de l'Ancien ou du Nouveau Testament, du personnage de Jean-Baptiste, appelé quelquefois le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance. J'ai été inspiré par cela par un court article de l'évangéliste allemand Wilhelm Busch, qui est décédé il y a 50 ans, mais dont le message reste très actuel. C'est l'auteur de « Jésus, notre destin ». Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est encore l'occasion de vous rattraper. Donc, il a écrit un petit article sur ce sujet et qui m'a inspiré d'en faire un message. Donc, Jean-Baptiste. Je sais pas, j'ai eu un peu quelques problèmes avec le... Oui, il y a encore... Non, il y a encore un qui manque. Il manque la référence. Je suis toujours un petit peu fâché avec... l'informatique. D'ailleurs, si jamais vous avez quelqu'un qui s'y connaît un peu parmi vous, je serai tout à fait preneur pour une petite visite chez moi. Donc, Jean-Baptiste. La présence de Jean-Baptiste d'abord dans notre texte. Et là, je me suis posé la question, mais qui était Jean-Baptiste d'abord pour Jésus? Pour Jésus, ce n'était pas compliqué. Il a fait une déclaration spectaculaire, ouais, elle ne semble pas se ressortir très bien. Sur mon ordinateur, il ressortait. Mais, oui, là, je ne sais pas. Non, moi, ça devrait dire la citation de Jésus. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Donc pour Jésus, Jean-Baptiste était le grand personnage. Et on va comprendre pourquoi. Et quand les disciples lui ont posé la question ou ont fait cette affirmation, nos chefs religieux nous disent que avant Jésus, avant toi, en fait, c'est Élie qui doit venir. Et là, Jésus leur a expliqué dans Matthieu 17, au verset 12, « Mais moi, je vous dis que Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. » Et les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Et qui était Jean-Baptiste pour les prophètes de l'Ancien Testament? Là encore, c'est fort simple. Là, c'est la voix de c'est la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 40. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Donc, l'Ancien Testament annonce clairement Jean-Baptiste comme étant le précurseur de Jésus, celui qui spirituellement va préparer le peuple à la venue de Jésus. Et qui est justement Jean-Baptiste pour le peuple? Jean-Baptiste était, d'après ce que nous comprenons dans le texte biblique, c'était le personnage le plus célèbre à son époque. Il n'y a personne qui ignorait qui était Jean-Baptiste. Ils étaient venus de partout. Justement, le texte nous dit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Ils étaient des dizaines de milliers de le connaître, des milliers qui sont venus l'entendre, des centaines qui se sont fait baptiser. C'était le personnage le plus connu de l'époque sur place. Et qui était finalement Jean-Baptiste pour ses propres disciples, pour ses disciples donc qu'il avait. Mais ils se sont regroupés autour de leur maître, ils croyaient en lui. Ils suivent de près son enseignement et pendant quelques années, ils ont formé un groupe privilégié. Mais voilà que les choses, un jour, ont changé radicalement. C'est quand Jésus est apparu. Quand Jésus s'est présenté, la situation change. Pour un temps, d'après ce que nous comprenons, les deux ont prêché simultanément. Et Jésus aussi a eu des disciples. Un mouvement clair s'est dessiné, les disciples de Jean-Baptiste diminuaient, ceux de Jésus augmentaient. Là, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça signifiait pour les disciples de Jean-Baptiste? Est-ce que ils ont vu ce qu'ils auraient dû, un accomplissement de ce que Jean-Baptiste avait prêché lui-même, ou est-ce qu'ils se sont révoltés contre ce concurrent qui vient leur, en quelque sorte, enlever la première place de Jean-Baptiste, de leur maître qu'ils suivaient. En tout cas, pour les disciples, le constat les disciples de Jean-Baptiste, le constat était amer. Jésus est un concurrent. Même parmi eux, il y a des gens qui ont quitté Jean-Baptiste et qui ont rejoint Jésus. Alors, ils sont venus se plaindre auprès de leur maître. Nous lisons dans Jean 3, il vint trouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tout vont à lui. » Ils n'avaient pas tout à fait raison, parce que le chapitre suivant va dire que Jésus ne baptisait pas lui-même et que c'était ses disciples. Mais comme Wilhelm Busch précisait, « Quand le cœur devient amer, il est vite prêt à exagérer. » Mais leur constat, en tout cas, est amer. Fini la douce communion avec leur maître, Jésus est un concurrent qui nous enlève les gens. Et là, c'est une première application importante que nous pouvons faire. Sommes-nous libres de telles pensées si jamais une communauté a plus de succès que nous? Ou que même, oh, quel drame, il y a des gens qui nous quittent pour aller vers une autre communauté. Aïe. Et la question se posait bien sûr aussi à Jean-Baptiste lui-même. Comment est-ce qu'il a réagi? Mais pour lui, la situation était parfaitement claire, sans ambiguïté. Il avait clairement identifié son rôle de précurseur de Jésus pour lequel il devait préparer les cœurs par ses appels à la repentance. Mais nous voulons examiner de plus près sa double réponse qu'il a donnée à ses disciples qui sont venus se plaindre auprès de lui. Le but de Jean-Baptiste était évidemment de les aider dans leur vie spirituelle. Et ce but est le même qu'il utilise maintenant, aujourd'hui, pour nous, ici présents. Il a prononcé deux phrases d'importance majeure. La première, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et il leur a dit, vous êtes témoin vous-même, je vous l'avais dit, moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Verset 30 du même chapitre. C'est une leçon de base pour tout chrétien, et surtout pour tout chrétien engagé. Discerner sa place, prévue par le Seigneur dans l'œuvre de Dieu, même si cela ne correspond peut-être pas ou pas entièrement à nos ambitions personnelles. Que de souffrances, que de problèmes relationnels, d'amertume et même de division auraient pu être évités, même parmi les frères, parmi les sœurs, si tel chrétien avait compris et accepté sa juste place que le Seigneur avait prévue pour lui ou pour elle. C'est la première leçon du saint Thomas qu'était Jean-Baptiste pour ses disciples. Discerner le plan de Dieu et de s'y soumettre. Et la deuxième phrase importante qu'il a prononcée, c'était le fameux « Il faut qu'il croisse et que moi je diminue ». Il faut que lui, le Seigneur, croisse et que je diminue. Et ça, c'est le véritable secret de la croissance spirituelle. Plus pour Jésus, moins pour moi. C'est ce que la Bible appelle la sanctification. Plus de place pour l'envie, la jalousie ou une ambition malsaine. Déjà David disait, je veux paraître encore moins que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Et Jésus l'a dit, nous l'avons encore vu tout à l'heure, quiconque s'élève sera baissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Et Paul a dit les mêmes choses avec d'autres mots. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que la force de Dieu peut agir en moi, parce que je libère en quelque sorte la place à l'action de Dieu. Ça, c'est la glorieuse inversion de valeur de l'Évangile. Cela signifie tout pour Jésus, rien pour moi. Mais ça, c'est un processus. Toujours plus pour Dieu, toujours moins pour moi. Mais autant que c'est la glorieuse inversion des valeurs, autant qu'il est difficile de vivre dans toute la mesure que ça va à l'encontre de nos propres ambitions, de nos désirs, quelquefois charnels, quelquefois simplement dus à notre nature, qui n'est peut-être pas tout à fait libérée de toute influence autre que du Saint-Esprit. Pour les disciples de Jean-Baptiste, c'était révélateur. Il s'agit de vous ou il s'agit de Jésus? Wilhelm Busch disait, « L'ambition secrète et jalousie sont deux péchés qui ne sont pas aussi visibles que le meurtre ou l'adultère. C'est pour cela qu'ils sont secrètement tolérés par les chrétiens. » Vous entendez ce reproche? Ambition secrète et jalousie. Péché secrètement toléré par les chrétiens. Donc le secret de ma croissance spirituelle, je veux donc examiner mon cœur, mon attitude, mes pensées. Moi ou le Seigneur? Quelle gloire est-ce que je recherche? Ai-je compris et accepté la place que j'occupe? Suis-je libre de toute envie ou jalousie pour celui ou celle qui réussit mieux que moi et qui occupe peut-être une place d'autorité ou de ministère que moi j'ambitionne. Je veux rechercher la bénédiction de Dieu dans ma vie et dans la vie de ma communauté. Oh, que Dieu puisse permettre que par son Saint-Esprit puisse convaincre chacun de nous de cette grande vérité. Je veux rechercher la bénédiction de Dieu dans ma vie et dans la vie de ma communauté. Mais pour Jean-Baptiste, c'était visiblement quand même un défi. Et le défi de Jean-Baptiste, en fait, nous ne lisons rien dans l'Écriture sur son combat, sur sa tentation, sur le dilemme qu'il a subi. Comment a-t-il subi l'humiliation d'un prédicateur à succès national, éclipsé par Jésus, perdant sur toute la ligne presque son aura, ses succès, sa gloire, ses disciples, pour être oublié, mis de côté, puis emprisonné et finalement cruellement assassiné par les caprices d'une jeune fille et de sa mère et d'un roi qui était moralement déchu. Comment est-ce qu'il a vécu l'amertume et le rejet? Avez-vous connu ou connaissez-vous un sentiment d'amertume parce que vous vous sentez méprisé, vos dons ne sont pas ou ne sont plus demandés, d'autres font ce que vous auriez voulu faire? Vous avez alors une formidable chance de progresser dans votre vie spirituelle et communautaire. Plus pour Jésus, moins pour moi. C'est dur pour notre vieille nature, mais quel résultat dans la durée. Alors le défi a été lancé pour Jean-Baptiste. Est-ce qu'il a douté de son Dieu qu'il avait élu avant même sa naissance et qu'il a établi précurseur de Jésus? Non, parce que Jean-Baptiste avait gagné ce défi, parce que sa soumission était totale. Tout pour Jésus, rien pour moi. Il faut qu'il croisse et que je diminue. On aurait pu se poser la question, mais est-ce qu'il était triste? Est-ce qu'il était découragé? Non, à ses disciples déçus de cette concurrence de Jésus, il explique: celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi c'est toi, cette joie qui est la mienne est complète. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il dit cela dans l'Évangile de Jean au chapitre 3 à partir du verset 29. Alors, je reviens encore une fois à son personnage, le secret de Jean-Baptiste. Voilà, il veut encore avancer, oui. Donc, nous l'avons compris, ce qui a fait de Jean-Baptiste celui parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste, d'après les paroles même de Jésus. C'était sa consécration totale. Rien pour moi, tout pour Jésus. Une acceptation pleine et entière du rôle et de la place que Jésus lui avait destiné. Le témoignage fidèle de précurseur de Jésus. Sa place importante dans l'histoire du salut. Même sa mise à l'écart, sa prison et son assassinat ne font que confirmer sa totale soumission. Comme il l'avait dit, un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Et ça, il l'avait pleinement compris et pleinement accepté. Et l'autre, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il a accepté avec toutes les conséquences, très tragiques pour lui, mais qui faisait simplement partie du plan de Dieu pour lui. Alors la question se pose bien sûr pour chacun de nous, ce matin, réunis autour de la personne de notre Seigneur et de Jésus notre Sauveur. Qu'est-ce que nous avons à faire avec ce message? Et je vais quand même oser vous présenter une application. Là, j'ai eu des problèmes avec le PowerPoint. Là. Ah, non, là, il s'est repenti. Ouais. Voilà. Je vous manque 5 ou 6 applications. On va juste les lire lentement, chacun. Et la question se pose en fait que chacun de vous, dans votre cœur, vous devez une réponse à ces questions. Vous posez la question, est-ce que ça me concerne? Y a-t-il en moi des envies, de la jalousie vis-à-vis d'un frère, d'une sœur que Dieu utilise et bénit plus que moi? Oh, c'est facile et c'est vite fait. J'examine mon cœur pour savoir est-ce qu'il y a de telles envies dans mon cœur. Ou encore, ai-je pleinement accepté le ministère actuel qu'on m'a confié? Oh, j'ai connu, je pourrais vous citer des exemples dans mon ministère de gens qui ont bien compris cet appel et d'autres qui se sont heurtés et qui ont créé pour eux-mêmes un dilemme dans leur vie spirituelle et des problèmes pour les autres. Ou encore, la médisance, la critique négative, qu'on ne voit pas très bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme le pasteur Pouge l'a précisé, des péchés tolérés dans le cœur de tant de chrétiens. Est-ce que cette critique ou cette médisance ont une place dans ma vie ou dans mon Église? Ou encore, ai-je un ministère de réconciliation? Donc, positivement, je suis appelé à avoir un ministère de réconciliation, de consolation, d'encouragement, de construction dans mon Église. Est-ce que je suis un élément constructif dans mon Église? Je suis appelé à l'être. Ou encore, est-ce que je suis libéré de toute ambition de gloire personnelle en faveur de mon Seigneur et de mon Sauveur, Jésus-Christ? C'est facile à dire, facile à affirmer, mais pas forcément aussi facile à pratiquer. Et finalement, quelle est ma réaction si on me retire une responsabilité? Je l'ai encore vécu pas tout à fait récemment dans une autre église, une sœur qui a eu un ministère très positif pendant de longues, longues années. Et un jour, dans le conseil, on l'a encouragée quand même à prendre un peu sa retraite. Et elle a dit oui, mais quand on l'a rencontrée, elle avait mal pris. Elle en voulait en fait au fait qu'on lui a retiré cette responsabilité qu'elle avait simplement parce qu'elle pensait avoir droit, et pas seulement pour le passé, mais encore pour je ne sais pas quel avenir, alors qu'elle était déjà relativement âgée. Alors, comment est-ce que je réagis quand on me retire une responsabilité ou un ministère où je pense avoir eu droit, vu mes compétences, mon ancienneté ou ma fidélité? Tout cela, c'est très humain, et je ne peux pas critiquer qui que ce soit, mais encourager chacun à s'examiner pour simplement résumer, et ça résume aussi mon message, le Seigneur ou moi, c'est l'ultime défi qui se pose à chacun de nous. Et je vais terminer par cette affirmation, la placer en quelque sorte devant vous ce matin, le Seigneur ou moi, voici l'ultime défi. Que Dieu vous bénisse. Je veux te rendre grâce, Seigneur, de ce que ton Saint-Esprit est encore à l'œuvre aujourd'hui dans nos vies, dans nos cœurs et dans notre communauté. Te rendre grâce de ce que tu donnes, ce que tu ordonnes, et que là où nous avons mis en opposition nos propres désirs, nos passions, nos désirs, et qui, quand elles s'opposent à ta volonté, nous te demandons simplement, fais-nous la grâce, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous convaincre de l'amour infini que tu as déployé pour nous, ce plan merveilleux que tu as pour chacun de nous, pour nos vies, que nous puissions nous soumettre à ce plan, le discerner, le comprendre et l'accepter. Que ton nom soit invoqué sur chacun de nous ici présents ce matin, sur cette communauté, dans le beau nom de notre Seigneur Jésus. Amen.